Israël au Kassai oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est une de ce qu'on m'a dit au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, d'actifs de maîtrise des gens, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. Le ministre de la Santé publique, Félix Kabangé, a déclaré mercredi 23 septembre l'épidémie de choléra en République démocratique du Congo. La province du Maniema se présente pour la première fois comme le foyer le plus important et le plus inquiétant de cette épidémie. Depuis le mois de janvier, 1078 cas ont été enregistrés avec 52 décès, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Le gouvernement congolais s'est dit aussi préoccupé par la rougeole qui a fait pour la même période 528 morts sur 36 291 cas enregistrés. Certains observateurs estiment que pour faire face à cette situation, le gouvernement devrait renforcer la couverture vaccinale pour la rougeole et renforcer les capacités des agents de santé pour la prise en charge de malades du choléra. Qu'en pensez-vous? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission mise en onde par Mimi Kindou, Jirlungembo est à la réalisation. La coordination et Pierrot et la Meiji vous la présente, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres haut, débarquer en Bandaka, en canoë kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon, et j'en passe. Okapi Sport, un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Au fidèle auditeur, on se retrouve pour parler santé avec l'épidémie des choléra déclarée en République démocratique du Congo par le ministère de la Santé, mais aussi la rougeole qui a fait 528 morts sur 36 291 cas enregistrés. Alors, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé de prendre des mesures pour faire face à toutes ces situations. Plusieurs observateurs estiment que dans les cas de choléra, il faudrait renforcer les capacités des agents de santé pour la prise en charge de malades, mais aussi renforcer la couverture vaccinale pour faire face à la situation de la rougeole, que ce soit en province orientale, dans le Maniema, dans les Katanga et partout à travers le pays. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Mais nous insistons, à cause des difficultés que nous connaissons avec les lignes téléphoniques, il serait mieux que vous puissiez nous appeler avec votre réseau RTL si vous en avez. C'est ce qui peut nous permettre de pouvoir vous rappeler à cause de ces petites difficultés que nous avons sur les lignes téléphoniques. Appelez-nous au 081-890-4969, mais communiquez-nous en numéro du réseau RTL qui puisse nous permettre d'entrer en contact avec vous. C'est la même chose que nous demandons à Dr Richard Mukalenga, spécialiste en santé publique, si il peut nous joindre par le numéro RTL, ça va nous permettre de pouvoir le rappeler. Plusieurs messages ont été déposés sur la page Facebook des paroles aux auditeurs, plusieurs contributions de nos internautes par rapport à cette question qui touche la RDC. Il y a Patrick Songo qui nous a écrit de Butembo qui dit ceci: le gouvernement ne doit pas tout simplement renforcer les capacités des agents de santé, la couverture vaccinale, mais aussi il faut sensibiliser la population pour qu'elle puisse prendre quelques mesures en vue de combattre ces deux épidémies. Et là, il propose que la population soit intégrée dans les campagnes de vaccination pour la rougeole, mais aussi dans la consommation de l'eau de boisson propre pour les choléra. Trésor Tangale dit ceci, il est à Bujumbura, au Burundi. Pour faire face à cette épidémie, le gouvernement ne devrait pas seulement s'occuper des agents, mais plutôt savoir la cause. J'estime que l'eau potable est à la base de ces déclenchements du choléra. Au Maniema, par exemple, il n'y a pas de l'eau dans certaines parties de la ville de Kindu, cas de la commune d'Alungouli, où il y a toujours les coupures du courant. Il a fallu que le gouvernement puisse construire des points d'eau potable et des veillées sur les courants. On va résoudre la question du choléra. Voilà autant de réactions sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Mais en ligne aussi, plusieurs personnes sont en train de se bousculer sur notre standard pour leur point de vue par rapport à ces situations qui touchent à la santé. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, dans la province du Kasaï central. Bonjour et bienvenue sur les antennes de Radio Okapi.
Bonjour et beaucoup de l'opportunité que vous m'offrez une fois de plus.
On vous écoute. Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait à Kananga? Peut-être que vous ne connaissez pas cette situation, mais cela est préoccupant parce que le Katanga est beaucoup fréquenté par ceux qui partent de Kasaï central, du Kasaï vers le Katanga pour les activités commerciales. Il y a des localités frontalières de ces deux provinces. Alors, comment vous pouvez, vous, à votre niveau, proposer des pistes et des solutions pour faire face à cette situation de épidémie?
Merci, Pierrot et la Menji, pour la parole. Je pense que c'est vrai, pour le moment, le Kasaï central ne connaît pas encore cette épidémie, mais dans le passé, pendant que la province était encore unie, donc le Kasaï occidental, nous avions connu ce genre d'épidémie dans les territoires d'Ilebo, donc l'épidémie de rougeole. C'était vraiment déplorable et puis beaucoup de gens ont perdu de vue là-bas. Et les problèmes qui se posent dans notre pays, je me suis toujours posé des questions, mais Pierrot, je n'arrive toujours pas à trouver des réponses. Comment ça fait-il, parce que sous d'autres yeux, ce genre de maladies, choléra, rougeole, n'existe presque plus. Hein, ce sont des maladies déjà éradiquées par les systèmes sanitaires de tous ces pays-là. Et mais la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est aussi bien aligné pour le respect donc des vaccinations de toutes ces maladies. C'est là que je me suis toujours posé des questions. Les problèmes se trouvent au niveau donc des mauvais diagnostics pris par nos médecins, ou bien ce sont ces vaccins-là qui n'ont pas une certaine efficacité qu'on nous envoie en République démocratique du Congo, où les problèmes se posent à quel niveau. Mais néanmoins, parce que les problèmes est déjà posé. Il y a déjà des problèmes, donc le gouvernement a déjà déclaré cette maladie-là donc au niveau de la partie est de notre pays, précisément au Maniema. Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Premier facteur, parce que le choléra, c'est comme vous le savez bien, c'est une maladie qu'on appelle la maladie de main sale. Donc, il y a beaucoup de choses qui concourent autour de cette maladie, notamment il y a donc la qualité d'eau que nous prenons. Nous avions quelle qualité d'eau? Parce que il n'y a qu'un peu de personnes qui ont accès à une qualité d'eau, mais les autres donc d'habitants prennent n'importe quelle eau. Donc là, comme première recommandation, le gouvernement doit être d'abord regardant vis-à-vis de la qualité d'eau que la population congolaise est en train d'utiliser. Deuxième facteur, vous allez vous rendre compte que l'environnement et nous aussi la population, nous n'allons pas toujours croiser les bras pour attendre que le gouvernement fasse tout. Nous devons d'abord assainir notre propre environnement, parce que en assainissant cet environnement, nous nous épargnons de certaines maladies, parce que lorsque nous transformons nos résidences, nos domiciles, comme des endroits où il faut mettre des poubelles, et nous nous attirons nous-mêmes des maladies. Troisièmement, je pense qu'il faut une forte donc sensibilisation de la population. Lorsque je parle de la sensibilisation, Pierrot, vous serez peut-être inquiet et puis étonné. Je me rends compte qu'il y a certaines églises qui ne permettent pas à leurs adeptes donc de se livrer à nos agents qui viennent pour la vaccination. Ils disent que un véritable enfant de Dieu n'a pas besoin de tous ces médicaments parce que Dieu seul est le médecin par excellence, il guérit. Et si quelqu'un s'adonne à ces pratiques de médicaments, des vaccins, vous allez à l'hôpital, donc vous êtes loin de la parole de Dieu. Et certaines populations accroient donc à ce genre de discours. C'est là que j'ai dit, si la sensibilisation, donc une forte sensibilisation, atteignait d'abord toute la population, donner la vraie information à la population. Parce que quelque part on dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Si la population n'a pas une connaissance, si la population est figée par rapport à une information lui donnée quelque part, et lorsque la deuxième information viendra, ce sera difficile pour convaincre ces messieurs-là qui avaient déjà eu une connaissance quelque part, même si cette connaissance-là, cette information était biaisée. Donc je pense il faut vraiment sensibiliser la population. Et aussi, une autre recommandation, c'est par rapport au choix des agents qu'on envoie sur terrain pour la vaccination. Et ici, nous voyons, ce sont des connaissances. Et quelqu'un qui n'a pas une maîtrise dans ce domaine-là sanitaire, mais on les prend. Mais lorsque vous posez la question, pourquoi on ne privilégie pas ceux-là qui ont une certaine connaissance dans ce domaine? On vous dit, mais est-ce que pour donner donc un vaccin, pour dire à l'enfant d'ouvrir sa bouche, lui donner une goutte de médicaments, est-ce qu'il faut être nécessairement spécialiste ou bien du domaine de ces, donc de la santé? Et c'est là que nous lui disons que ce sont des petits détails-là, négligés par certaines personnes qui croient que non, ce n'est pas important, on peut prendre n'importe qui, on peut prendre un cordonnier, on peut prendre un juriste, on peut prendre un mécanicien, on l'intègre, on lui donne ces médicaments-là, commencer à circuler, et cela aussi pose problème. Et puis, enfin, Pierrot, je pense que, à mon humble avis, la couverture n'est pas aussi suffisante. Parce que moi-même, je m'étais fait violence. Lorsqu'il y avait nos agents qui circulaient pour donner le vaccin, le médicament, mais il y avait certains endroits que ces agents-là n'atteignaient pas, n'arrivaient pas. Mm-hmm. Et en fin de compte, il y avait toujours donc le médecin directeur provincial qui était monté aussi au créneau pour dire qu'il y a eu autant de personnes qui n'avaient pas accès à cette vaccination. C'est comme ça que moi j'ai dit. Donc, les recommandations données par nos amis pour essayer de former, sensibiliser et aussi renforcer la couverture, c'est bien bon, mais il faut d'abord se rassurer. Est-ce cette couverture-là, est-ce cette vaccination atteint tout le monde? Voilà un peu, en quelques lignes, Pierrot, quelques recommandations que j'avais adressées par rapport à ce sujet, qui du reste est très important.
Merci beaucoup, Maître Adrian. Vous êtes à Kananga, vous êtes parti avec beaucoup de précisions pour les deux épidémies. Et d'abord, en commençant par les choléras, vous estimez que là, c'est le responsable aussi de la, d'abord du pouvoir public de pouvoir donner à la population l'eau potable, hein, parce que quand on regarde la cartographie dressée ici par le ministre de la Santé, il a insisté que le choléra a touché le Maniema, la ville de Kindu, les zones de santé de deux rives du fleuve Congo, les territoires des Kailo, et il y a des foyers qui sont épars dans la province. Il y a, le ministre a insisté beaucoup sur la zone de santé des Tiomi en Ituri, la zone de santé de Lubunga dans la Chopo, Wanyarukula vers l'axe Lubutu, Ubundu vers l'axe Maniema, la ville de Goma au nord Kivu, la cité d'Uvira et Ishabunda au sud Kivu. Et il a insisté sur l'ex-Katanga, où il y a beaucoup de contrées comme Bukama, Malembankulu, Kalemi, où le choléra est devenu presque permanent. Et ça, c'est une question qui doit être résolue dans la desserte en eau potable, effectivement, vous l'avez dit, mais il faut aussi sensibiliser la population par rapport à la consommation de l'eau potable. Mais d'un côté, s'agissant de la rougeole, vous avez ensemble, comme le ministre le disait aussi dans ce point de presse, qu'il y a ce problème de la faiblesse des couvertures en vaccination. Il y a la difficulté des chaînes de froid aujourd'hui, la conservation des vaccins qui se pose dans beaucoup de zones de santé. Il y a aussi la sécurité qui a paralysé les activités des vaccinations dans beaucoup de coins. Et vous avez même souhaité, au-delà, à chaque fois quand il y a une campagne de vaccination, que ce soit pour la rougeole, que ce soit pour la poliomyélite, il faudrait qu'on associe des agents de santé par le fait qu'on dise que chaque personne peut être encadrée pour administrer le vaccin. C'est pas si compliqué que ça. Et vous estimez qu'il n'y a pas une bonne communication entre la communauté et ceux qui administrent les vaccins. Si jamais ils ne maîtrisent pas tous les rouages, si possible, à cela, il faut sensibiliser la population pour qu'elle abandonne des croyances qui font aujourd'hui que des gens ne parviennent pas à amener les enfants pour qu'ils soient vaccinés. Et d'un côté, vous avez insisté beaucoup sur ça. Raphaël, vous êtes ici à Kinshasa, vous nous avez rejoint dans cet échange. Bonjour Raphaël. Donc, Raphaël, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot et la musée.
On vous écoute, Raphaël. Qu'est-ce qui doit être fait pour faire face à ce genre d'épidémie quand ça se déclenche?
Oui, pour moi, comme l'a dit mon prédécesseur, il faut assainir les milieux, sensibiliser la population et les suivre. Alors, À part cela, pour moi, j'ai remarqué qu'il y a un grand problème dans notre pays. Quel est ce problème? Prenons tout simplement le domaine médical. À Kinshasa, il y a combien de médecins? Il y a combien de docteurs? Il y a combien d'infirmiers? Et ainsi de suite. Mais partons, prenons un point, par exemple, à Kisangani, à Bagwasenge. Vous trouverez, la population est grande qui est là, mais il n'y a aucun centre médical, aucun infirmier, aucun docteur, ainsi de suite. Alors, tout cela est une faille qui est dans, je le catégorise dans le ministère premièrement, et puis je l'oriente dans le gouvernement de notre pays. Pourquoi? Parce que vous trouverez dans n'importe quel domaine, par exemple, un psychologue, dans ce village, il n'y a aucun. Un politologue, il n'y en a pas. Donc, tout simplement, il y a une grande population de docteurs, de médecins, de politologues, psychologues, géologues, mais tous sont concentrés dans les centres urbains et dans la capitale. Alors, pour moi, je préférais mieux que l'État puisse faire un effort afin de décentraliser tous ces personnels-là et de les envoyer dans le plus profond Congo.
Merci beaucoup Raphaël, c'est ce que vous avez d'ailleurs donné comme précision dans votre message sur la page Facebook. Vous insistez sur le fait qu'il faudrait rapprocher aujourd'hui les professionnels de santé dans les milieux ruraux. Vous estimez qu'il y a beaucoup de médecins, d'infirmiers, ceux qui maîtrisent bien les domaines sont à Kinshasa, et par contre dans les milieux où il y a effectivement ces cas de rougeole qui sévissent même de choléra, il est difficile de pouvoir trouver des corps soignants, des personnels de santé auprès de la population. C'est un problème très sérieux. Alors, si on doit rapprocher le système avec la population, c'est pourquoi même on a eu cette subdivision en zone de santé pour permettre à ce que la population soit plus rapprochée des structures de soins. Et comme ça, les gens peuvent être encadrés, que ce soit dans la lutte contre le choléra ou aussi dans la lutte contre la rougeole. Merci beaucoup, Raphaël. Nous avons Rifan qui nous appelle de Béni, dans la province du Nord Kivu. Rifan, vous nous avez rejoint dans cet échange. Bonjour. Rifan, vous êtes avec nous. Bonjour.
Considération. Comme vous le savez, l'épidémie de choléra a été toujours à la base de plusieurs décès dans notre pays depuis longtemps, où la plupart des victimes sont des vulnérables qui n'ont pas assez de moyens pour l'autoprévention. Ce n'est pas donc une question d'aujourd'hui, mais moi je pense qu'il y a seulement un manque de bonne volonté de la part de notre gouvernement.
Oui, allez-y, Rufin.
Vraiment, c'est ce que j'ai trouvé parce que c'est pas pour la première fois que cela se présente dans notre pays. Mm-hmm. C'est pas aujourd'hui qu'on peut dire qu'on cherche aussi des mesures préventives pour que cela ne puisse pas contre.
Mm-hmm. Alors, vous estimez, Rufin, que c'est pas la première fois qu'il y ait une épidémie de choléra qui se déclenche au pays, que ce soit même la rougeole. Et pour vous, dans la plupart des cas, ce sont toujours les plus démunis qui sont concernés, qui sont touchés. Et vous mettez ça sur les épaules de la volonté politique qu'on devrait avoir dans la lutte contre toutes ces maladies. D'ailleurs, dans ces points de presse, il y a le ministère de la Santé qui a insisté sur le fait en ce qui concerne la couverture vaccinale. Il y a plus de 2500 frigos qui doivent fonctionner sur le système d'énergie solaire qui ont été commandés pour pouvoir les disséminer à travers le pays dans les zones de santé. Cela pourrait permettre à ce qui est la couverture vaccinale puisse se faire sans beaucoup de difficultés, et des mesures aussi urgentes par rapport à la situation de l'épidémie de choléra, comment on peut faire face à tout cela. Merci beaucoup, Rifan. Et je rappelle encore à nos auditeurs que vous pouvez aussi intervenir au 081-890-4969, mais à condition que vous puissiez nous joindre avec un numéro RTL, c'est les réseaux qui nous permettent de communiquer avec vous pendant ce moment que nous avons des petits soucis avec d'autres lignes téléphoniques. Dodé Baka Tufikila nous a écrit de Kananga, je crois, on l'aura tout tout à l'heure là en ligne, mais il y a aussi Falcao Matiaba qui dit ceci: la population vit dans les conditions difficiles, comment voulez-vous qu'une maladie comme le choléra puisse disparaître d'un coup? Les autorités doivent prendre des mesures qui s'imposent pour endiguer cette épidémie, de peur qu'elle puisse se propager dans plusieurs autres villes, compte tenu des conditions de vie et surtout l'accès à l'eau potable qui s'impose dans notre société. Nous avons Dr. Richard Mugelinga, spécialiste en santé publique, qui nous a rejoint dans cette émission. Dr. Richard Mugelinga, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs et félicitations à tout le monde qui a participé. Parce que il a dit, donc tout le monde qui a parlé, les trois auditeurs qui sont intervenus, ils ont dit des très très bonnes choses.
Mmh. Et vous qui êtes spécialiste en santé publique, je crois que c'est pas la première fois que nous puissions évoquer le cas des déclenchements des épidémies dans notre pays, que ce soit la rougeole ou bien l'épidémie des choléra. Alors vous, un système de santé, quand il y a une épidémie qui se déclare, hein, c'est un moment où l'épidémie est maîtrisée et puis il y a une résurgence. À quel niveau se trouve effectivement le problème, docteur Richard?
Merci pour cette question. Si je dois répondre à cette question, je pourrais partir de l'historique du choléra en Afrique et dans notre pays. Vous savez que l'Afrique a importé le choléra de l'Inde, du Pakistan. Ok? En Afrique du Nord, c'était les pèlerins qui rentraient de la Mecque. Vous savez que la péninsule arabique n'est pas très loin du Pakistan, de l'Inde et de Bangladesh. Il y avait la souche El Tor qui avait envahi le Maghreb. Et puis, pour nous, nous avons été contaminés par le choléra qui est entré par la Tanzanie, ok? Toujours à partir des pèlerins qui venaient de la péninsule arabique et d'autres voyageurs qui allaient en Inde et au Pakistan, Bangladesh. C'est ainsi que vers les années 70, ok, si je ne m'abuse pas, on peut me corriger, le choléra est apparu tout autour du lac Tanganyika parce que c'est là qu'était contaminé. Et c'est là qu'est devenu aujourd'hui d'ailleurs le point de contamination de l'Est de notre pays. Alors, pour ce qui est du choléra présent, je crois que ce choléra est venu de Goma. Goma prend ça du lac Tanganyika. Je sais aussi que nos frères et sœurs qui sont dans le Maniema s'approvisionnent beaucoup à Goma. Il y a donc un trafic intensif de ce côté-là. Voilà, pour épingler un peu la petite histoire. Alors, et en ce qui concerne les mesures à prendre, j'ai suivi les auditeurs qui ont dit il faut que qu'on fasse l'assainissement, il faut que l'État intervienne, etc. Mais moi j'ajoute aussi, il faut que la communauté utilise le vocable qu'on utilise en santé publique, la participation communautaire. La communauté ne peut pas rester dans l'état de spectatrice. Donc, elle doit participer dans la lutte contre le choléra. Comment? En suivant les mesures qui sont décrétées par les structures de santé ou la hiérarchie de santé autorisée. Donc, comme le ministre a parlé, il a dit la vérité qu'il y a le choléra. Et puis, maintenant, les zones de santé vont maintenant mettre en pratique ce qu'on appelle le paquet minimum de lutte contre les maladies de main sale. Pour ce qui concerne maintenant le choléra, on doit mettre en pratique ce qu'on doit faire en cas de choléra. La première chose, c'est d'informer la communauté que le choléra est là. La deuxième chose, il y a des mesures d'assainissement, c'est-à-dire il faut lutter contre le rapprochement des mouches vers la population, c'est-à-dire éteindre le plus tôt les points qui attirent les mouches, parce que c'est un vecteur important dans la contamination. Troisième chose, savoir, comme on dit, neutraliser le choléra dans les points d'eau, c'est-à-dire les sources aménagées, là où il y a des cuves de rétention, on va chlorer ça, et en chlorant cette eau, on aura une eau assainie. Et puis dans nos maisons, si on n'a pas de chlore, il faut bouillir l'eau de boisson. Voilà. C'est qu'on peut prendre comme mesure préventive lorsqu'on dit que le choléra est là. Et enfin, savoir se nettoyer les mains au savon. Si on n'a pas le savon, il y a la cendre. La cendre de nos foyers lorsque nous terminons à préparer.
Voilà ce que je peux dire.
Mmh. Mais alors, parce que le choléra est apparu, il y a aussi la rougeole d'un côté, le ministre a même imploré que la rougeole a fait vraiment des sérieux ravages. Alors, il faudrait, les auditeurs réagissent par rapport aux deux éléments. D'un côté, vous avez évoqué la responsabilité de la communauté en ce qui concerne la lutte contre le choléra, qu'est-ce qui doit être fait. Mais avec la rougeole, c'est devenu aussi très, très récurrent. Et on a évoqué la faiblesse de la couverture vaccinale plutôt. C'est pourquoi j'ai posé la question, celle de savoir à quel moment il y a la cassure pour qu'il y ait une résurgence après une certaine période.
Oui, pour le choléra, le décès vient d'être traité à minima. Alors pour la rougeole, il faut que la population sache que la rougeole est une maladie virale qui frappe surtout les enfants entre 0 et 5 ans. Voilà. Et surtout, ça endommage jusqu'à tuer les enfants qui sont d'abord non vaccinés et surtout non vaccinés et malnutris. C'est ça encore le problème. C'est ainsi que dans les campagnes de vaccination contre la rougeole, on ajoute obligatoirement la vitamine A, c'est pour booster l'immunité de ces enfants, et puis on fait le déparasitage pour que les vers ne consomment pas les aliments que les enfants prennent, le peu d'aliments qu'on prend là. Mais la vitamine A n'agit effectivement que sur un terrain de bonne nutrition. Quand l'enfant n'est pas bien nutri, on peut lui donner des litres et des litres, ça ne donnera rien. Il faut que l'alimentation de base, c'est-à-dire tout ce qu'on peut prendre de riz, haricots, igname, etc., soit accompagné aussi d'une bonne quantité de protéines d'origine animale. Ce sont ces protéines associées à d'autres protéines, par exemple des haricots, de soja, etc., qui produira cette protéine d'origine animale avec les autres produiront les anticorps pour protéger l'enfant. Et le vaccin seul n'agit pas. Le vaccin, ça sera une parade de donner le vaccin, et puis en dessous du vaccin, il n'y a rien. Donc on aura fait un travail qu'on appelle un coup d'épée donné dans l'eau. Donc il faut qu'il y ait aussi une source d'alimentation qui permet à l'enfant de produire son armée, c'est-à-dire les anticorps, pour lutter contre l'apparition ou l'attaque à partir de ce virus-là. Alors, maintenant, si l'attaque vient, trouver l'enfant avec une bonne quantité de soldats qui peuvent lutter contre ce virus, cet enfant, même si c'est la rougeole, sortira victorieux dans cette bagarre.
Et donc, Richard, mais parce que plusieurs fois on est revenu sur la faiblesse de la couverture vaccinale, est-ce qu'il faudrait qu'on puisse réfléchir pour trouver une autre méthode de plus efficace? Parce que avec la vaccination de routine, les difficultés qu'ont les zones de santé pour conserver la chaîne de froid et l'insécurité, des fois aussi les difficultés d'atteindre les points les plus reculés plutôt où cette épidémie de la rougeole se déclenche une fois. Est-ce ne faudrait-il pas que les spécialistes aujourd'hui, en regardant notre système sanitaire, puissent penser à développer d'autres méthodes, d'autres stratégies qui puissent quand même renforcer la couverture vaccinale, parce que chaque fois quand il y a une épidémie de rougeole qui se déclenche, on revient toujours pas à annoncer, déplorer la faiblesse de la couverture vaccinale. On a vu dernièrement avec le Kasaï oriental, on a dû faire la campagne des masses, mais du moins ça revient chaque fois. Ne faudrait-il pas là de gager d'autres stratégies qui puissent permettre de renforcer cette couverture vaccinale plutôt que revenir sur cette faiblesse chaque fois qu'il y a une épidémie qui se déclare?
Oui, merci pour cette question qui attriste peut-être les parents qui ont perdu des enfants qui sont morts à cause de la rougeole. Je présente mes condoléances à ces parents. Alors, pour corriger la faiblesse de la couverture vaccinale, c'est l'État qui doit assurer la sécurité. Ça, c'est la première chose, parce que vous avez cité l'insécurité. Alors, deuxième chose, il faut aussi que l'État puisse contrôler ce qui sort de la bouche de certains pasteurs. Il y a le premier auditeur de Kananga qui a parlé de certains pasteurs qui disent l'enfant de Dieu ne peut pas aller chercher la sécurité de sa santé auprès des hommes qui vaccinent, qui donnent les médicaments, etc. Ce pasteur-là ne connaît pas la parole de Dieu parce que en lisant la parole de Dieu, nous trouvons un peu plus loin. Cette parole dit « J'ai mis en l'homme l'intelligence pour faire des ouvrages. Ça, c'est dans Exode 31. Quand vous regardez quel ouvrage, le vaccin, c'est un ouvrage biologique. Voilà. Et puis, ces pasteurs ne connaissent pas aussi la parole de Dieu, parce que la parole dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et cette parole ajoute encore que, à la foi, associez la connaissance. À la connaissance, la science. À la science, prenez les vertus. Donc, les bonnes choses de la vaccination, il faut les prendre. Donc, ce sont des personnes à poursuivre et à juger et à condamner pour non-assistance à personne en danger. Donc, ils ne connaissent même pas la parole de Dieu. Voilà. C'est ça le problème. Voilà. Donc, ces deux choses-là reviennent à l'État. Donc, on peut corriger la faiblesse de la chaîne de foi, on peut corriger la faiblesse de ce que nous avons dit la fois passée, de la rétention au niveau des zones de santé, de ce que nous avons nommé la dose résiduelle pour aller à l'assaut des poules d'apparition des rougeoles qui peuvent embraser des zones entières, des communes ou des provinces entières en épidémie de rougeole. Donc, il faut qu'il y ait à la base, au lieu d'attendre toujours que la structure centrale envoie le vaccin, il faut qu'il y ait des vaccins résiduels au niveau des zones de santé pour agir au niveau des aires de santé.
Merci.
Où éclatent les épidémies. C'est là où on peut les étouffer à l'œuf, comme on dit, au lieu d'attendre toujours que le niveau central agite les partenaires et agisse en lieu et place des zones de santé. Il faut que les zones de santé réclament qu'ils aient des doses résiduelles pour aller à l'assaut de la rougeole lorsque elle se déclenche à petite échelle au niveau des aires de santé dans les zones de santé qui sont dans notre pays.
Voilà. 081-890-6315, l'épidémie de choléra déclarée en République démocratique du Congo dans la province du Maniema se présente pour la première fois comme le foyer le plus important et le plus inquiétant de cette épidémie. Depuis le mois de janvier, 1078 cas ont été enregistrés avec 52 décès. C'est le ministère de la Santé qui l'a annoncé. Mais d'un côté, il y a aussi la rougeole qui, pour la même période, a fait 528 morts sur 36 291. Qu'est-ce qu'il faut faire d'une manière plus efficace pour mettre fin à tout ça? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Mais n'oubliez pas, nous rappelons encore, joignez-nous avec le numéro RTL pour votre intervention. Jean-Claude, vous êtes à Kindou, Sylvain à Bouyan, nous allons vous accorder la parole.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capitale propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Jean-Claude, vous êtes à Kindou, dans la province de Maniema, qui est concernée par cette situation du choléra. Vous êtes avec nous dans cette émission. Bonjour Jean-Claude. Jean-Claude, là, on a des petits soucis des lignes avec votre téléphone. Si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, ça peut peut-être améliorer la qualité de la communication. En attendant, nous allons à Bounia, où Sylvain est avec nous. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les invités de Radio Capi.
Voilà, Sylvain, je crois bien, comme le disait le ministre de la Santé, il y a aussi l'ex-province orientale qui est concernée par cette situation. Alors, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait?
Merci beaucoup. Je veux d'abord souscrire à l'expression, même aux idées avancées par le PDCR. Je dis que, dans une étude minimaliste, il est tout à fait normal que puisse préconiser une accès élargie de la prise en charge des personnes qui souffrent de cette épidémie de choléra et de rougeole. C'est tout à fait normal. Et là, on se range tout simplement dans le cadre d'apporter assistance. Mais je voudrais plus aller dans une conception plus maximaliste qui consiste plus à la question de la prévention. Et là, je suis d'accord avec les amis qui ont parlé de la question de l'assainissement. Mais qu'est-ce que je dis, monsieur le journaliste? Et là, je parle comme directeur général d'une ONG qui s'appelle les ambassadeurs de bonne volonté. Par rapport aux outils que nous avons menés sur le terrain, ça fait pratiquement une semaine, lorsque nous avons appris cette épidémie de choléra dans la ville de Bounia. Nous sommes partis, puisque nous sommes dans la ville de Bounia, nous sommes partis sur un échantillon de 3 quartiers sur les 12. Qu'est-ce que nous remarquons, monsieur le journaliste? Nous remarquons d'abord que les ménages ne savent pas gérer leurs déchets, leurs poubelles. Or, si vous voyez la production des déchets ménagers, des odeurs de ménagers, vous vous rendez compte qu'il y a toute espèce de production d'ordures. Et ces ordures, lorsqu'ils ne sont pas gérés, sont en contact avec le ménage, il y a facilité qu'il y ait le transport, n'est-ce pas, de microbes, qui va maintenant causer des problèmes, on va parler de choléra. Ça, c'est un des deux. Je voudrais aussi citer un élément très essentiel, ça veut dire quoi? On ne sait pas se débarrasser de l'insalubrité. Ça, c'est un problème, puisqu'il faut se rendre aussi compte, monsieur le journaliste, que le choléra est une maladie de mains sales. Et ici, je dirais, d'une manière ramassée, puisque lorsque nous sommes allés, par exemple, au quartier Lumumba, là où c'est le plus centre-ville, vous trouvez sur 10 ménages, un seul ménage salubre. Ça veut dire 9 ménages insalubres. Allez-y comprendre. Nous rentrons sur le deuxième quartier, le quartier municipal, où nous trouvons que sur 10 ménages, il y a un seul ménage salubre. Vous comprenez encore le problème. Et nous rentrons sur le quartier de Mbabo, où nous trouvons sur 10 ménages, pratiquement aucun ménage qui respecte les normes de la gouvernance environnementale responsable. Ça veut dire quoi? En amont, nous-mêmes nous sommes responsables de ces épidémies et nous appelons maintenant les services pour venir intervenir par après. Mais moi, je dis quelque chose par rapport à ça aussi. Puisque les gens doivent comprendre que la question de la santé est une question imbriquée d'autres facteurs, tels que le facteur environnemental. Puisque moi, ici, je me remets aux journalistes qui ont proposé les objectifs du millénaire. Je pense que c'est au point qu'on parle de la santé maternelle, même si on dit que la santé maternelle, pour moi, je prends ça comme santé. Donc, vous vous rendez compte qu'on dit clairement, les facteurs environnementaux jouent sur la santé. Et donc, de cette façon-là, au niveau de Bounia précisément, même si on dit que c'est la zone de santé rurale de Bounia, c'était source de la production de cette épidémie de choléra. Moi, je dis non, le problème est d'abord la cohabitation de l'homme par rapport à son environnement, et vice versa. Donc, je pense, à mon avis, ce qui vient de se passer, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une gouvernance responsable au niveau des différents services de l'État. Ça veut dire quoi? L'environnement, le service de l'environnement, le service de la santé, le service du plan, doivent mettre un programme imbriqué ensemble pour que nous puissions mener une vie digne d'un être humain. Ce qui se passe, et ce que nous constatons sur le terrain, c'est quoi? C'est que le service de la santé n'a même pas une inspection. C'est juste quand il y a épidémie qu'on va crier, on va inspecter les ménages. Or, c'est un travail de routine au niveau des communes, au niveau des quartiers, des avenues. On doit avoir le service d'hygiène et assainissement qui doit tout au quotidien vérifier si réellement les gens sont en train de vivre dans un milieu salubre. Moi, je pense, à mon avis, que ce qui se pose comme problème, c'est que nous vivons d'abord dans des environnements très insalubres et ça ne nous permet pas un épanouissement sanitaire responsable. Et voilà, nous sommes dans ce cas de maladie. Je ne pense pas que tout simplement en élargissant le soin qu'on va accorder aux gens, nous allons vivre ce problème. Moi, je pense que la première chose, c'est en amont, nous devons d'abord assainir notre environnement.
Merci beaucoup Sylvain, vous avez insisté sur l'assainissement de l'environnement, la responsabilité de la communauté, et Dr. Richard le disait tout à l'heure, la participation communautaire, n'est-ce pas, dans la lutte contre ces maladies, la responsabilité de la population aujourd'hui en province orientale. Vous avez évoqué les difficultés qu'ont beaucoup des quartiers à Bounia plutôt, et des ménages à être salubres, et tout cela favorise bien sûr les développements de ces maladies, et particulièrement les choléras, quand même on pourrait prendre des décisions de rapprocher les soins médicaux, de prendre en charge ceux qui sont malades, mais il faudrait considérer la question d'une manière plus élargie avec l'implication de la protection de l'environnement. Merci beaucoup Sylvain. Nous avons Fiston qui nous appelle de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Fiston, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour confrère, et bonjour à tous les auditeurs Radio Capi.
On vous écoute. Au niveau où vous êtes à Walikale, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour que ce soit le pouvoir public qui a en charge l'organisation du système sanitaire, mais aussi la population puisse être impliquée d'une manière ou d'une autre dans la lutte contre ces épidémies, que ce soit la rougeole ou les choléras?
Ah ben écoutez, comme vous êtes en train de le dire ainsi, la responsabilité est partagée, mais en premier niveau, écoutez, c'est le gouvernement congolais d'abord a les monopoles, a la plus de responsabilités, du fait que il a tous les moyens possibles pour empêcher tout ça, mais aussi la communauté, bien sûr, comme vous l'avez souligné, ça dépend aussi des comportements et des mentalités de la communauté là où elle se retrouve. Mais chose déplorable, pourquoi? Parce que il y a des services là de l'État qui sont en charge de faire le suivi et mettre en pratique ce qui est demandé à faire, mais malheureusement, au lieu que ce service habilité donc d'assainissement, le service qui est habilité de le faire, au lieu de faire ce travail, ils sont là en train de rançonner, en train de faire de n'importe quoi. Et que donc, de part d'autre, les responsabilités sont partagées, de part donc de la communauté et de la part du gouvernement congolais. Mais dans toutes les façons, dans le milieu où nous sommes, et c'est tout ce qu'on constate dans tout ça, et c'est tout que dans des zones là où la population est tellement entassée, mais aussi ça dépend du comportement, du milieu et des caractères et de la mentalité.
Merci beaucoup Fiston. Vous avez évoqué la responsabilité du pouvoir public, les services de l'hygiène, environnement par exemple. Vous dites qu'il y a plusieurs ces livres plus au renseignement qui est à l'encadrement de la population, au contrôle de ce qui doit être fait. Sylvain a insisté tout à l'heure sur le rôle de l'inspection sanitaire qui devait contrôler les ménages, les avenues, les quartiers régulièrement plutôt qu'agir quand il y a déjà une épidémie qui se déclare dans la communauté. Mais d'un côté, la communauté a aussi cette responsabilité dans le respect de l'environnement, dans son implication, n'est-ce pas, dans la protection de l'assainissement de son milieu, compte tenu de la promiscuité qui caractérise beaucoup de localités aujourd'hui et surtout de ces endroits où les épidémies se déclenchent. Merci beaucoup, Fiston. Vous nous avez appelé des Walikale. Dieu merci. Vous êtes à Kolwezi dans la province de Lualaba. Merci de nous avoir appelé. Vous êtes avec nous. Dieu merci. Qu'est-ce qui doit être fait? Bonjour.
Dieu merci, c'est Amano Saint-Paul.
Ah, vous êtes Amano, Dieu merci, c'est Amano qui vous nous appelle, on vous écoute.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les amis qui nous suivent pour le moment. Justement, je vais vous dire Pierrot, il faut comprendre que les personnes courent des risques, qui s'estiment surtout ici à Amano en termes de qualité de l'eau de consommation, comme dans ce territoire Pierrot. Vous avez bien vraiment, je vais même me permettre d'estimer les données statistiques relatives à l'eau, à la consommation de l'eau impropre. C'est au moins 90% des ménages qui consomment l'eau très sale. Il y a même dans certains milieux Pierrot, là, on trouve des puits non protégés, des puits ouverts comme ça. Mais comment les gens, on peut dire que ces gens ne sont pas exposés à toutes ces maladies. Mmh. Mais parler de la participation communautaire, comme notre invité l'a dit, oui, mais c'est les journalistes. C'est quelle communauté? Dépourvu de tout. Mais personne n'ignore que la problématique de la gestion de l'accès à l'eau potable implique aussi la compétence du pouvoir de l'État. Mais voilà pourquoi l'État doit penser vraiment à remettre des puits dans le milieu, même dans le milieu reculé, pas seulement au centre. Il y a les gens qui meurent. Si je peux vous dire, j'avais suivi un jour le médecin chef de zone d'ici quand ils sensibilisaient les gens pour garder les mesures d'hygiène. Et il avait donné un chiffre des gens qui étaient déjà attaqués par les problèmes de diarrhée simple. Mais ça pouvait étonner tout le monde. Tout ça, c'est dû à quoi? C'est parce que nous avons l'UNICEF qui sensibilise les gens ici pour garder les mesures d'hygiène. Le lavage des mains, même l'enjeu de conserve, sont à mon nom ici. Mais l'eau est où pour permettre à ces gens de garder les mesures d'hygiène? Si je veux vous parler pour le moment, Pierrot, il fait très chaud à mon nom et encore les gens n'ont pas l'accès facile à l'eau. Tout ça, ça expose les gens, ça oblige les gens à prendre n'importe quel pot. Ça aussi, c'est un problème qui demande aussi à l'État vraiment de prendre des responsabilités. Pour parler des cas de rougeole, oui, il y a les problèmes de vaccination. Les problèmes de vaccination, il y a certaines églises, surtout les églises de réveil, n'ont pas encore compris l'importance Il y a même les autorités de la place qui sont impliquées juste pour sensibiliser les gens. Mais les gens ne parviennent pas toujours à comprendre. Voilà pourquoi même ceux qui sensibilisent doivent d'abord se fixer un objectif. C'est pour éradiquer, c'est pour prévenir à la maladie. Mais il y a une maladie qui est déjà là. Vous voyez, les gens prennent ça toujours à la légèreté. Tout ça sont des problèmes. S'il y a des cas de résistance, c'est vrai. Ça, ce sont des églises. Mais il faut chercher comment accentuer les explications et les sensibilisations afin d'amener à cette population de comprendre l'importance des vaccinations. Prenons par exemple les centres ici. Les gens parfois comprennent. Même pour le moment, nous sommes pendant la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Il y a des gens qui comprennent facilement. Mais beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Et comme dans le milieu régulier, oui, quand il y a trop de morts, mais vous trouvez les gens qui cherchent comment aller à l'hôpital, comment demander. Tout ça, ce sont des problèmes que le ministère de la Santé doit vraiment recueillir et prendre en considération afin de classer la santé comme une grande priorité pour la population. Vraiment,
Merci de donner. Vous insistez beaucoup sur le fait que le pouvoir public doit considérer la santé comme la priorité. Mais les gens sont tellement pauvres aujourd'hui, vous l'avez dit, que ça sera difficile d'impliquer une population qui, déjà, même si elle pourrait être sensibilisée, mais d'abord, l'État n'a pas mis à sa disposition l'eau potable à Manono. Il fait très chaud, les gens recourent à l'eau sale, l'eau des puits non couverts, et ça, c'est la responsabilité du pouvoir public. Mais renforcer les campagnes de sensibilisation pour que les gens s'impliquent en ce qui concerne la vaccination contre la rougeole. Dodé, Baka, Tufikila, Dekananga, au Kasaï Central dit ceci, mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. C'est étonnant de voir en République démocratique du Congo, l'on veut intervenir que quand la situation est devenue plus pire ou quand elle a déjà causé beaucoup de morts. Et la meilleure solution dans tout ça, c'est de s'attaquer aux causes, aux symptômes. Prenons les cas du choléra. Pour l'éviter, il faut que le peuple puisse avoir accès à l'eau potable, mais cette eau potable, on ne pourra pas donner cela à la population quand il est déjà attaqué. Il fallait agir en amont. Mais la même situation aussi pour la vaccination. Il y a aussi, Dieu merci, Udongo, qui nous a écrit de la ville de Bounia, qui dit ceci. En province d'Ituri, je pense que ce sujet est très important pour tous les Congolais, parce que même en Ituri, précisément à Kasseni, plus ou moins 50 km de la ville de Bounia, certains affirment déjà l'existence du choléra. Mais nous demandons au gouvernement congolais, et surtout en collaboration avec les agents de santé qui sont sur terrain, de travailler plus dans la sensibilisation de la population et donner à la population les moyens de purifier l'eau, de laver les mains, et sinon ça risque d'être très dangereux. Patient Paul Ngoï dit ceci, on assiste à des scénarios au Congo. Quand une épidémie est déclarée à tel coin du pays, le ministère de la Santé enregistre quand c'est les Congolais qui meurent. Dès cela, le ministère se préoccupe en disant qu'il faut chercher des voies, des moyens. Dès que l'épidémie ravage une province, c'est l'appel à l'OMS et aux organismes internationaux. Je me demande quand est-ce que nous serons en mesure nous-mêmes de résoudre nos problèmes sans pour autant citer les bailleurs et les partenaires. Jean Trésor, qui nous a écrit des Dungu, il dit ceci, je regrette fort quand notre gouvernement doit se préoccuper par l'épidémie de choléra, car ce qui veut dire qu'une épidémie se déclare quand on ne prend pas soin de sa population. C'est une maladie des mains sales. Si il arrive, c'est que la population n'a pas l'eau potable. C'est que le gouvernement doit se préoccuper de la prévention qui est sur terrain. Félicien, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre point de vue, Félicien? Bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour à tous les auditeurs. Moi, je m'inquiète, je ne comprends pas si exactement nous avons des hommes qui nous gouvernent et ils gouvernent pour l'intérêt de la population. Parce que quand vous vérifiez le passé, vous verrez que l'homme blanc se trouvait partout, à l'intérieur du pays, à l'arrière du pays, dans tous les coins, avec des dispensaires. Et la couverture médicale était complète dans tous les coins de la République. Et la prévention était complète. Et on arrivait dans des villages, même des villages les plus reculés, avec des véhicules de Land Rover pour aller vacciner les gens. On n'attendait pas qu'il y ait un problème de ce côté ici, comme on le fait maintenant sporadiquement. Mais on prévoyait déjà pour que cela n'arrive pas. Mais ce qui m'étonne plus, c'est que 55 ans après, nous n'ayons même pas la possibilité de donner de l'eau potable à toute la population, même dans la ville de Kinshasa. quand vous regardez le soir dans beaucoup de chaînes de télévision, on montre comment les gens sont en train de boire de l'eau sale dans les périphéries de Kinshasa ici. Mais nous voulons aller à l'émergence en 2035. Mais l'émergence, c'est le développement. Je pense que ce n'est pas un brevet qu'on va aller vous donner comme on le donne partout dans les organismes. Mais ça veut dire qu'on a atteint un niveau de vie et un certain niveau de vie. Mais comment on va arriver à cela quand même les plus petites choses, nous ne les avons pas? Mais ces gens, ils sont là pour s'amuser ou bien ils sont partis pour gérer la République dans l'intérêt général de tout le monde. Moi, je pense qu'il est temps et que ces gens qui sont à la majorité, au lieu de commencer à se quereller et tout ça, qu'ils cherchent le meilleur d'entre eux, qu'ils puissent sauver la face, même de ces quelques jours qui les restent. On ne peut pas continuer à vivre dans toutes ces situations comme ça, et tous les gens sont en train de dire tout va bien, tout va bien. Nous sommes dans notre pays, nous ne pouvons pas tolérer que même les toilettes publiques, ce sont des ONG étrangères qui viennent nous les construire, et nos villes, ce sont les unions européennes qui viennent nous les nettoyer, et nous vivons dans l'insalubrité, même dans la capitale. Alors si la capitale est dans cet état, et l'arrière-pays doivent se trouver dans quelles conditions? Non, nous devons prendre conscience et les autorités doivent être interpellées pour qu'ils sachent qu'ils sont là pour l'intérêt général et non pas pour leur poche.
Merci beaucoup, Félicien. Vous avez insisté sur la conscientisation du responsable public, hein, son rôle dans la desserte, par exemple, en eau potable pour la population. Vous estimez que c'est ce qui doit être fait quand on voit les difficultés sérieuses aussi dans beaucoup de quartiers ici à Kinshasa. Pour avoir accès à l'eau potable, cela s'impose. Mais dans tout ça, vous estimez que ceux qui ont le pouvoir politique, public, pour décider, ils ont cette responsabilité. On va terminer avec vous, Assoumani. Vous nous appelez de Kindu, dans la province de Maniema. Bonjour, Assoumani.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, on vous écoute, Assoumani, avant que Dr. Richard puisse conclure cette émission. On vous écoute, Assoumani.
Merci beaucoup. Ce qui est là, par exemple, ici chez nous, Manima, monsieur le journaliste, nous avons de multiples problèmes. Ce qui fait que qu'il y ait présence de cette maladie ici chez nous, Manima, premièrement, pour la carence d'eau potable. Donc, l'eau potable n'est pas en abondance ici chez nous, Manima. En tout cas, toutes ces difficultés, nous avons déjà beaucoup souffert, monsieur le journaliste. Allô?
Oui, allez-y, on vous écoute.
Allô?
Allez-y, Assoumani, vous êtes sur les antennes, vous avez déploré les difficultés d'accès à l'eau potable dans la province de Maniema. Oui, continuez.
Ah, ok, là, c'est bien maintenant. Ici, vraiment, monsieur le journaliste, ce qui fait à ce qu'il y ait de cette maladie-là, par exemple, les courants aussi est à la base de cette maladie. Pour vu qu'il y a carence de courants électriques, il n'y a pas aussi assez de l'eau potable. Là, carrément, nous allons toujours avoir cette maladie. Voilà ma contribution.
Merci beaucoup, Assoumani. Vous avez évoqué l'absence du courant électrique qui fait des problèmes à la régie des eaux, qui a cette charge de donner de l'eau potable à la population. Il y a beaucoup de provinces qui connaissent cette situation. Quand il n'y a pas du courant, ça sera difficile de faire tourner les machines de la régie des eaux. Voilà, ces deux situations sont liées. Et vous estimez que c'est à cause de ça que la province de Maniema connaît des cas, de plus en plus ces cas d'épidémie de choléra, comme on l'a vu aussi ailleurs, on l'a évoqué en province orientale exactement. Merci beaucoup, Assoumani, de ce témoignage et ce point de vue de Kindu dans la province de Maniema. Nous retournons à vous, Dr. Richard Mukelinga, vous êtes avec nous?
Je suis avec vous, Pierrot.
Voilà. On a compris l'État, la population. Et en deux minutes pour conclure cet échange, qu'est-ce qui peut être retenu au-delà de tout ce qui a été dit par tous les compatriotes ainsi que eux, ces messages de sensibilisation, de conscientisation envers le responsable public?
Oui. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Premièrement, la responsabilité de l'État est incontournable. Ça, c'est un. Deuxièmement, la participation communautaire dans la lutte contre les épidémies est aussi incontournable. Troisièmement, les fauteurs de troubles tels que les pasteurs qui ne connaissent pas la parole de Dieu doivent être neutralisés. Parce que la Bible même que ces pasteurs utilisent parle dans Deutéronome 23, verset 6 jusqu'à plus ou moins 16 de la propriété des camps.
C'est-à-dire, c'est l'hygiène. L'hygiène à partir de la personne elle-même, son foyer, sa communauté, etc. Alors, quatrièmement, on ne peut pas oublier le rôle que jouent ce qu'on appelle les vaccins. Hein, par exemple, contre la rougeole. Pour le choléra, ce sont les mesures d'hygiène. Comme monsieur le ministre que je salue et encourage, parce que il a eu le courage de dire la vérité, il a dit que le fleuve Congo charrie aussi vers Kindu le choléra, à partir du Katanga aussi, qui est un foyer aussi non négligeable. Donc, il y a deux points de convergence de choléra sur Kindu. Il y a le fleuve Congo et il y a aussi le lac Tanganyika. C'est aussi incontournable. Alors, la communauté doit être aussi éveillée et suivre ce qui se passe dans la communauté afin qu'elle prépare aussi les armes pour lutter contre ces épidémies-là. Donc, on ne peut pas aussi, dans cette lutte, oublier l'alimentation et surtout la bonne alimentation qui donne les protéines, c'est-à-dire qui prépare les anticorps, donc l'armée qui doit affronter les microbes qui nous envahissent. Merci.
Merci beaucoup, Dr. Richard Mokelinga, de nous avoir prêté de vos services hein, en tant que spécialiste en santé publique pour écouter la population, mais aussi la sensibiliser sur son implication dans la lutte contre ces épidémies. Nous avons évoqué là les cas de l'épidémie de choléra et l'épidémie de rougeole qui sévit en RDC, selon le ministère de la Santé. Merci à tous ceux qui nous ont aidé à produire cette émission. Mimi Kindou était à la mise en onde des Jir Ngembo à la coordination et la réalisation. Pierrot et la Meiji vous a présenté ces magazines que vous allez retrouver sur www.radiocapi.net. C'est sur les sites internet, bien sûr, les Radio Capi. Mais Parole aux auditeurs vous retrouve le lundi à 11h30, heure de Kinshasa. Pour le moment, il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie des Radio Capi. Au revoir.